À un moment donné, on faisait 20 000 masques dans le phare des choses. On en faisait beaucoup, là, au mois de mai.
Maxime Thériault, vous êtes le président de Tricot Maxime, un fabricant de textiles leader dans son marché depuis 1985. Lancé il y a plus de 35 ans par votre père Denis, l'organisation que vous dirigez désormais emploie maintenant plus de 300 employés répartis dans 5 usines et se spécialise depuis quelques années dans la confection de matelas. Maxime Thériault, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Parfait, merci beaucoup de me recevoir, c'est apprécié.
Et Maxime, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, l'entreprise Tricot Maxime est maintenant devenue une histoire familiale. Peux-tu nous parler aujourd'hui de comment tu as intégré l'organisation quand tu étais plus jeune et comment tu as évolué à travers celle-ci au cours des années?
Oui, une entreprise familiale, je dirais que j'ai, dès mon jeune âge, commencé à travailler, puis à aider, puis à suivre un petit peu les traces de mon père. Donc, dès mon adolescence, disons, dès l'été, le travail d'été, donc de commencer à l'aider, faire des travaux au shipping, au receiving, d'aller faire différentes tâches. J'ai pu commencer assez jeune là, à me familiariser vraiment avec l'industrie du textile. Et puis, en grandissant, bien sûr, en ayant mes deux parents dans l'entreprise, ben forcément, ça parle beaucoup de travail à la maison également. Donc, toujours été intéressé par ce qui se passe dans l'entreprise, puis suivre ça depuis mon jeune âge, en effet. Donc, j'ai toujours été un peu comme Astérix, Obélix. Là, je suis tombé dedans quand j'étais assez jeune. Donc, pour moi, c'était un petit peu normal là, d'être là-dedans. Il y a aussi des employés qui me connaissent là, depuis que je suis tout petit. Là. L'entreprise a été fondée lorsque j'avais 6 mois. Donc, ils m'ont vu grandir dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 25 ans là, chez nous. Donc, qui m'ont vu évoluer aussi avec le temps.
Ouais, ben c'est assez impressionnant tout ça de voir que des employés ont tant de longévité dans votre organisation. C'est tout à votre honneur. Puis, je serais curieux un petit peu, Maxime. Donc, c'est assez intéressant. Sans faire des recherches présentement sur Internet, on est capable de voir que beaucoup de choses qui ont changé dans votre organisation dans les 2 dernières années, comme la majeure partie des entreprises dans le monde à cause de la fameuse crise du COVID-19 qui a impacté l'ensemble de la planète au complet. Et je lisais dans un article en faisant mes recherches avant le podcast, qu'au début de l'année 2020, vous aviez en tête de vivre votre plus grande année, votre année de plus forte croissance pour Tricot Maxime. Et par la suite, on va parler un petit peu de ce qui s'est déroulé avec la COVID-19, mais je serais curieux de t'entendre comment vous avez été capable d'accomplir ces différents piliers de croissance-là au cours des dernières années, parce que clairement, ça fait longtemps que vous êtes en affaires, vous continuez à avoir de la croissance, vous avez l'air d'avoir une belle pérennité. À quoi tu attribues ça?
Je pense que c'est important de comprendre que Tricot Maxime a plusieurs étapes un petit peu dans sa croissance. Des années qui étaient, on dirait, antérieures à 2007, c'était du tricot vraiment circulaire fait pour les vêtements. Et puis depuis 2007, on est vraiment dans le tissu pour les matelas, donc tout ce qui est la confection des housses jusqu'à mettre un matelas d'une boîte. Donc, on s'est vraiment spécialisé là-dedans. Et on est devenu, là, disons, dans les 10 dernières années, vraiment une compagnie en forte croissance et avec une intégration verticale. On a fait beaucoup de travail dans l'entreprise pour être capable de grossir, d'acquérir des nouveaux marchés, de développer des nouveaux produits. Et je vous dirais que juste avant la COVID, on venait de partir l'usine au Mexique. Donc, on avait des yeux, je me souviens très bien, d'être avec mon chef des finances et puis des opérations le 7 mars 2020 dans l'avion, retour de Guadalajara, notre usine. Et puis bon, quelques jours plus tard, le gouvernement Legault nous met sur pause, donc à cause de la crise mondiale. Donc, ça a été un timing que pour nous arrivait à vraiment un mauvais moment parce qu'on avait fait beaucoup d'investissements pour développer le marché de l'ouest des États-Unis et le marché mexicain. Donc, on avait de grandes ambitions et le taux de croissance était vraiment, vraiment bon. Donc, on était prêt vraiment à faire, à attaquer vraiment ces marchés-là. Et puis, la COVID est arrivée. On s'est retrouvé vraiment dans une situation où là, on a fait tous ces investissements, où on est allé chercher des nouvelles machines, du personnel, et puis là, oups, on se retrouve presque du jour au lendemain avec plus aucune commande. Donc, les magasins sont fermés. Les manufacturiers de matelas, bien sûr, eux aussi sont fermés au Canada et aux États-Unis en même temps, donc au Mexique. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a deux choix. Donc, j'ai regroupé mon équipe. C'est sûr qu'on a dû temporairement laisser aller des gens au niveau de la production puisqu'il n'y avait plus de commandes, mais l'équipe s'est retournée rapidement. On a décidé de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Tricot Maxime, pour aider durant ce temps-là? Et puis, bon, il y avait un problème d'approvisionnement au niveau des masques, au niveau des blouses, et puis on s'est dit, ben, pourquoi pas prendre notre know-how un petit peu, ce qu'on connaît. Fait qu'on s'est mis un petit SWAT team ensemble et puis on travaillait quasiment 7 jours sur 7, 24-24 pour trouver une idée. Puis on a décidé de lancer nos propres masques, nos propres blouses. On a lancé un site qui s'appelle mkmedic.com pour les dentistes, les physiothérapeutes, tous les spécialistes qui avaient besoin de blouses. On a fait notre effort de guerre, je dirais, dans les 2-3 mois qui ont principal, là, vraiment du... On arrêtait au mois de mars, puis je te disais qu'on avait une solution, puis un site Internet qui partait moins de 25 jours après, puis on avait une accréditation de Santé Canada dans l'espace de 40 jours. Donc, on a vraiment une équipe qui s'est déminée. C'est sûr qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire à la maison, on était tous confinés, donc on s'est dit, ben pourquoi pas profiter de ce temps-là pour arriver vers de nouveaux marchés. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis ça a permis de rapatrier à peu près presque toutes les troupes au bureau puis de faire travailler les gens durant ce temps-là. Donc, on a vraiment... Ça a été une période quand même excitante, là, je te dirais, malgré tout stressante, mais excitante parce qu'on a pu créer, comme je te dis, un nouveau bébé qui était notre site web avec de la vente en ligne. Donc, ça a été nouveau pour nous de faire de la vente directement en ligne puis d'aller participer à l'effort collectif. Là. Donc, ça a été un beau moment, je pense, pour l'équipe et les employés.
Puis, je voyais, vous faisiez 20 000 masques par jour. 20 000 masques par jour, c'est de la production, ça. Comment vous êtes arrivé à ça en si peu de temps?
Ben, en fait, nous, on avait quand même une équipe de couturières. Et puis, c'est sûr que nous, on fait des produits qui sont gros. Des housses de matelas, ça prend à peu près 60 à 90 minutes à produire une housse. Alors que, bon, des petits masques, on pouvait faire ça rapidement. Et puis, on se retrouvait avec énormément de matières premières qui étaient en inventaire qu'on ne pouvait pas nécessairement utiliser. Donc, on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être transformer ça en masse? Mais on a travaillé avec l'équipe et puis les gens ont décidé de rester avec nous puis de participer avec ça. On avait aussi également des sous-traitants dans notre environnement qui ont voulu participer puis qui ont aidé. Mais oui, à un moment donné, on faisait 20 000 masques. Dans le fort des choses, on en faisait beaucoup, beaucoup, là, au mois de mai.
Qui étaient vos clients à ce moment-là? Est-ce que c'était davantage le gouvernement qui faisait des commandes?
Écoute,
des
on n'a pas eu de contrat comme public. On n'a pas eu des choses comme ça. C'est vraiment, je dirais, autant des chaînes, des chaînes connues au Québec, au Canada, Que des établissements privés, des écoles aux États-Unis, en Ontario, dans le reste du Canada, au Québec, des centres. Tous ceux qui en avaient besoin, en fait, on est devenu rapidement, le mot s'est donné. Donc, les gens ont commencé à nous appeler. Et puis, on a une force de vente aussi qui est partout au Canada, partout aux États-Unis. Fait que, Riverport, eux autres aussi, se sont mis de la place. Puis là, bon, de bouche en oreille, bon, OK, l'école à mon fils, il voudrait des masques, parfait. Fait que le mot se tourne, bon, puis all of a sudden, on ship des masques, des blues un petit peu partout en Amérique du Nord. Donc, ça a été une période de COVID qui était excitante quand même pour l'entreprise.
Wow. Puis, Maxime, lors de l'épisode 78 de Hypercroissance, je recevais le fondateur de l'entreprise Sur Mesure qui nous disait avoir vendu pour 255 millions de dollars de masques au gouvernement pendant la crise. Par contre, lui et son frère, qui sont deux fondateurs dans l'entreprise, ils ont rapidement décidé de se retirer par la suite pour se reconcentrer sur leurs activités habituelles. Eux, ils sont dans le domaine de la création de vestons, création de chemises. Qu'en est-il, vous, de votre entreprise? Est-ce que vous avez continué à produire des blouses et des masques après que la crise se soit calmée?
En fait, nous, on n'a pas eu de contrat public, vraiment. Le médical, là, je ne peux pas dire que j'ai fait de l'argent avec ça. Quelque chose vraiment pour passer au travers, disons, ces 3-4 mois-là. Ça a permis de ramener les gens, de faire travailler, de faire tourner l'usine. Puis je voulais pas m'engager à long terme. J'ai eu des opportunités de prendre des contrats publics, mais ce qui est arrivé, c'est que je vends aussi à des clients qui sont dans le commerce en ligne, dans le matelas. Donc, eux autres, il y a eu un boom qui s'est passé à partir du mois de juin. Donc, je devais recommencer la production de produits. Donc, au mois de juin 2020, j'ai dû prendre la décision de dire, ben, on abandonne presque la médicale, mais ça c'est resté, disons, marginal après peut-être le mois de juin ou juillet 2020. On a continué à en faire un petit peu, mais on a accumulé tellement de stocks. On a encore beaucoup, beaucoup d'inventaire ici, invendus. Donc, on a fait beaucoup de dons à certaines fondations, puis tout pour des masques. Là. Mais on a encore beaucoup des masques en stock là, qu'on essaye de donner ici et là. Mais on a sorti quand même assez rapidement. C'est pas nous, c'est vraiment nos clients qui se sont remis à vraiment produire. Puis, il y a eu un boom, comme dans d'autres industries. Les gens avaient un petit peu plus d'argent, ne voyageaient pas. Donc, le matelas est devenu un item populaire. Donc, à partir du mois de juillet, je dirais jusqu'au mois de décembre 2020, il y a eu un boom dans notre industrie. Donc, on était capable de suffire à la demande. Là. Fait que ça, on n'a pas nécessairement rattrapé ce qu'on a perdu, mais ça nous a permis quand même de passer au travers de 2020. Là.
Puis tu disais que tu travaillais avec des commerces en ligne. Es-tu capable de nous parler un petit peu peut-être tes clients, c'est davantage des détaillants, des gens qui vont vendre directement aux consommateurs? Comment se déroule un petit peu le développement d'affaires?
Moi, je vends aux manufacturiers de matelas. Donc, les grandes marques au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Je vends à des commerçants en ligne, mais je ne vends pas aux magasins directement. Donc, je ne vends pas aux grands magasins directement. Je vends aux manufacturiers ou bien à des commerçants ont des marques en ligne de matelas roulés là, qui sont bien connues.
OK. Je vois très bien comment vous positionnez à travers tout ça. Un autre point que j'aimerais discuter avec toi, Maxime, c'est le repreneuriat. OK? Donc, on n'en a pas discuté tellement souvent sur Hypercroissance, sur le podcast. Et j'aimerais aborder ce sujet-là avec toi parce que je le trouve assez fascinant. Est-ce que, puis tu en as parlé un petit peu plus tôt, mais je serais quand même curieux de savoir quand était le déclic. Est-ce que c'était très, très clair, toi, dès ton jeune âge, que ultimement, t'allais prendre les rênes de l'entreprise, on le sait, t'allais travailler, tu travaillais déjà dans l'entreprise, mais est-ce que c'était très, très clair qu'à un certain point, à un moment donné, t'allais être le président, t'allais être le dirigeant de l'organisation?
Est-ce que c'était clair? Je te dirais peut-être d'un très jeune âge, oui. Je te dirais, disons, dans mon adolescence, l'entreprise allait quand même relativement bien. Cependant, lorsque j'ai été au cégep, à l'université, c'était les années plus difficiles dans l'entreprise. Donc, c'est peut-être un petit peu incertain de mon côté. Mais c'est sûr que j'ai toujours voulu continuer et prendre la relève. Là. Pour moi, c'est sûr que c'était quelque chose dans ma tête qui était là. Je pense que c'était dans la tête à mon père aussi. Mais fallait-il quand même qu'il y ait une business pour que je continue la business? Donc, il fallait passer au travers, disons, les années plus difficiles. Puis je pense qu'on a bien réussi, là, mon père et moi, là, à faire cette transition-là. Donc, c'est ça. Mais oui, je crois que fondamentalement, sans l'avoir écrit, je pense que c'était en moi de vouloir reprendre l'entreprise. Maintenant, comment ça s'est fait puis comment ça s'est transmis, disons, au début vingtaine, il y avait beaucoup d'incertitudes à cause bon, de l'entreprise, comment c'était dans ce temps-là, puis c'est des années un petit peu plus difficiles. Puis bon, mais oui, je crois que oui, là, je répondrais. Pour moi, c'était quand même.
Peux-tu nous en parler un peu de cette évolution-là, Maxime? Tu disais qu'il y a eu des années plus difficiles. J'imagine que tu devais être intégré dans plusieurs département pour que tu sois capable tranquillement de comprendre comment tout ça se matérialise ensemble. Peux-tu nous parler un petit peu de cette évolution-là et comment qu'aujourd'hui vous avez trouvé la croissance?
Bien, absolument. On était dans ce que mon père faisait avant puis qu'on faisait. On était vraiment du tricot à commission puis c'était pour des gens dans le vêtement. Mais à partir de 2004, les quotas sur l'importation des textiles ont été abolis. Donc, il n'y avait plus de taxes à l'entrée. Et puis, tous les tricoteurs à Montréal, toute l'industrie du textile s'est mise à disparaître. On avait une décision à faire. Mon père est allé voir puis a trouvé que lors d'une visite en Belgique, qu'on pouvait faire des tissus pour les matelas puis qu'il n'y avait personne au Canada qui faisait ça. Mais quand même, on était dans la fin d'un cycle. On avait peut-être une dizaine d'employés. Puis je te dirais que de 2005 à 2008, 2009, ça a été extrêmement difficile. Donc, ça a été des années où ce qu'on faisait extrêmement attention. Ce qui était bénéfique pour nous, c'est qu'on possédait l'immeuble où on était. Donc, on avait des locataires dans l'immeuble. C'est que ça nous a permis de passer au travers ces années plus difficiles-là avant de. On a commencé vraiment dans le matelas en 2006-2007. Ça a pris un bon 3 ans avant d'arriver à à break-even, puis un minimum de rentabilité. Ça a été ça qui a été un petit peu l'épisode marquant. Puis à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été presque en croissance constante depuis.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours.
Puis comment s'est faite cette transition-là avec ton père? Est-ce que tranquillement, c'était une responsabilité à la fois? Est-ce que tu dirigeais un département spécifique? Ultimement, t'en as dirigé un autre? Comment tout ça s'est déroulé à travers le temps?
Ouais, ben j'ai commencé... C'est sûr que quand on n'était pas beaucoup, on était une dizaine d'employés, donc tout le monde faisait tout à peu près. Donc, ça m'a permis d'autant faire d'opérer des machines que de faire du service à la clientèle, que de faire du planning, d'apprendre la production, d'apprendre les achats. Donc, cette période-là m'a permis vraiment d'apprendre un petit peu tout. Je dirais qu'au début des années 2010, je me suis concentré vraiment plus au niveau de la production puis des opérations. J'ai fait pas mal un 4-5 ans là, jusqu'en 2014 quand j'étais président. Je me suis vraiment focusé sur tout ce qui était plus opération, matières premières, planning, puis un petit peu de gestion, cash flow, tout ça. Donc, j'ai travaillé plus dans cet entraînement-là tout en faisant un peu de service à la clientèle et bien sûr en étant la face un petit peu de l'entreprise sur la route avec, on avait 2 ou 3 vendeurs, là, je crois, dans ce temps-là. Donc, on faisait un petit peu de tout. On a toujours été, on était une petite équipe. On a fait beaucoup d'heures, là. On a passé des heures.
Mais ça a dû changer. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton rôle? Aujourd'hui, je serais curieux de savoir où est-ce que tu mets davantage ton temps?
Aujourd'hui, je dirais que je fais plus de développement d'affaires. Beaucoup de temps pour moi là-dessus. Donc, bien sûr, j'ai mes indicateurs de performance à tous les jours, mais j'essaie de passer plus de temps au niveau stratégique. Bien sûr, je regarde quand même les indicateurs de près, mais ce qui me passionne vraiment, c'est le développement des affaires et puis tout ce qui est plus stratégique dans le marché. Donc, je te dirais que c'est ça en général. Et puis, bon, la communication, bien sûr, puis avec nos employés et puis les gens clés dans l'entreprise. Mais oui, je passe beaucoup de temps là, sur la stratégie commerciale.
Puis, est-ce que ton père est toujours impliqué dans l'organisation? Quels sont les rôles un peu de chacun?
Oui, bien sûr. Mon père est. On a plusieurs différentes divisions. Mon père est encore impliqué dans l'entreprise. Mon père, à la base, c'est un mécanicien, donc de machines textiles. Donc, c'est quelqu'un qui aime les machines. On a 3 bâtisses à Montréal. Donc, mon père gère l'entretien des bâtisses, avec l'équipe de maintenance. Donc, il y a toujours toujours des choses à faire sur des bâtisses. Donc, c'est vraiment ce qu'il aime faire. Donc, tout ce qui est machine. Donc, lorsqu'il est le temps de, disons, faire nos capex, de faire nos investissements, mon père est toujours la personne vers qui je vais aller voir pour vérifier puis dire, bon, est-ce que ça a du bon sens? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Tout le côté plus machine opérationnelle, l'efficacité de ce côté-là parce que 50 ans d'expérience en textile, ça s'achète pas.
Ouais.
Donc, je te dirais que c'est cette relation-là qu'on a, là, lui et moi, là, vraiment du côté opérationnel et gestion là, des bâtisses.
C'est intéressant de savoir ça. Puis, il y aurait quelque chose que j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu, aujourd'hui, t'as appris? Quelles sont peut-être les plus grandes leçons que tu as apprises d'une succession d'organisations, d'une reprise d'une organisation qui était déjà en place? C'est quoi peut-être que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui pense reprendre l'entreprise familiale ou même à un entrepreneur qui pense céder l'organisation à son fils ou à sa fille?
Je dirais d'en parler le plus tôt possible. Je ne dis pas que ça a été parfait de notre côté. Je pense qu'il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, mais on a une bonne relation quand même, mon père puis moi. Mais c'est d'en parler tôt, puis d'avoir, je pense, d'être clair des deux côtés. Donc, tu sais, de gérer aussi des attentes. Si je me place peut-être au niveau de la personne qui veut reprendre, c'est peut-être de se mettre aussi à la place de son père ou de sa mère ou de son oncle ou peu importe la personne qui veut reprendre. C'est toujours bon de se mettre dans les souliers de l'autre personne. Je pense que j'ai appris ça avec le temps, de dire, ben, tu sais, faut faire ça quand même en douceur, sans pousser la personne. C'est un peu le bébé de l'entrepreneur, de la personne qui a parti ça. Donc, de laisser aller, c'est faire un deuil aussi. Donc, il faut prendre le temps. Puis, je pense qu'il faut respecter la personne qui a fondé l'entreprise. Je pense que c'est important de faire ça, puis de se donner une date et puis un temps. Je pense qu'il... Puis, donc, c'est de faire ça. Puis c'est important aussi, si je me mets là dans la position de la personne qui veut céder, bien, commence de bonne heure parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a un souci de santé. Mon père a eu des soucis de santé. Puis, tu arrives dans des positions où ce que pas tout est nécessairement fait. Là. Donc, c'est assez complexe là, dans les transitions d'entreprise puis tous les documents qui doivent être faits. Donc, c'est mieux de faire ça d'avance, tu sais, de faire au cas où qu'il arrive quelque chose, parfait, bon, on va commencer au moins à mettre la machine en branle, puis s'il arrive un souci d'un côté ou de l'autre, ben au moins, on a déjà un plan, puis je pense que c'est de se faire conseiller le plus rapidement possible. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, mais de pas attendre d'être clair avec la personne, soit la personne qui reprend ou la personne qui passe le flambeau, puis d'en discuter, de ne pas garder ça en dedans. Puis parce que plus on étire, plus ça peut créer des frustrations de chaque côté. Donc, moi, j'invite les gens vraiment à en discuter, même si ça peut, d'un fois, être des discussions plus émotionnelles. Quand il y a la famille, d'un fois, ça peut être plus difficile, mais...
Ah, ça doit être des bonnes conversations à avoir, mais au final, ça doit être une relation qui est, bien entendu, il y a des hauts, il y a des bas, il n'y a rien de facile, mais ton père doit avoir une grande fierté de pouvoir se dire qu'il a été capable de continuer l'organisation, d'amener de la pérennité avec son fils impliqué dans l'organisation. Ça doit quand même créer un certain sentiment de fierté de son côté.
Je peux pas répondre pour lui, là, mais j'imagine que oui. J'imagine que oui. Je pense que oui. Mais si je me mettrais, je pense que vice-versa, moi aussi. Ça me rend fier là, de pouvoir continuer l'entreprise. Je pense que c'est important de continuer. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont capables d'avoir ça aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien. La pérennité, c'est un mot qu'on parle beaucoup en ce moment. Puis, c'est quelque chose qui est important, là, je pense, pour mon père et moi aussi.
Ben, 36 ans en affaires, c'est pas donné à tout le monde. Félicitations pour ça. Et avant de te poser des petites questions personnelles, Maxime, j'aimerais savoir, tu parlais d'ouverture d'une usine au Mexique avant la COVID-19. Qu'en est-il aujourd'hui de peut-être cette ouverture-là? Qu'en est-il de vos plans de croissance pour le futur?
Aujourd'hui, je te dirais qu'on est revenu à peu près où on était juste avant la COVID, où ce qu'on peut reprendre, je recommence à voyager, on recommence à aller sur la route, on recommence à aller voir nos clients. Donc, c'est sûr qu'on a perdu un certain rythme de croissance qu'on avait. Là, il faut rebâtir un petit peu, il faut revenir à la base dans certains marchés, surtout au niveau du marché américain, où mes compétiteurs américains en ont profité un petit peu plus durant la COVID parce qu'ils étaient plus seuls. Maintenant, il faut travailler pour aller reconquérir des parts de marché aux États-Unis. Au Mexique, c'est un nouveau marché pour nous, donc c'est excitant. On fait des progrès. Je te dirais qu'on a recommencé depuis le mois de juillet, puis là, bon, c'est sûr que c'est le fun d'avoir des ventes, des nouveaux clients, donc c'est excitant. Il y a de la croissance pour nous dans le marché mexicain. Donc, c'est sûr qu'on va mettre l'emphase là-dessus. Maintenant, dans les objectifs puis dans le futur de l'entreprise, c'est vraiment d'intégrer la compagnie un petit peu plus aux États-Unis. Donc, pour nous, il y a de la croissance à aller chercher là. Donc, on va mettre beaucoup d'emphase sur le marché américain dans les prochains mois, dans les prochaines années pour nous. Donc, c'est vers là que ça s'en va. Notre but, c'est d'être le leader en Amérique du Nord. Donc, on va s'y atteler.
Et c'est combien d'employés maintenant là et de chiffre d'affaires? Je voyais qu'avant la pandémie, vous visiez bientôt 60 millions de chiffre d'affaires, 300-350 employés. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de
ouais,
c'est des gros chiffres tout ça.
Oui, c'est pas mal ça aujourd'hui. Au niveau des employés, ça varie énormément. Donc, il y a des saisons hautes, il y a des saisons un petit peu plus basses. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, à peu près autour de 325 employés. Ça devrait monter pas loin de 400. On espère que le Mexique soit une usine miroir. Au Canada, on a à peu près 200 employés. On espère être capable d'en avoir 200 au Mexique pour l'usine qu'on a là. Donc, c'est à peu près ça qu'on vise. Donc, pour aller chercher aussi le marché mexicain puis de la côte ouest américaine. Donc, on voit beaucoup de croissance de ce côté-là. Donc, il y a des investissements qui vont s'en venir.
Merveilleux. Puis je terminerai sur des petites questions personnelles, Maxime. J'aime toujours savoir si mes invités aiment un peu la lecture, si ça les aide dans leur développement d'entreprise. Est-ce que tu lis un peu des livres d'affaires?
J'en lisais beaucoup, puis je te dirais que c'est peut-être quelque chose que je dois travailler. En voyageant, j'appréciais souvent dans les aéroports, une des choses que j'aime beaucoup, c'est d'aller dans les librairies. Puis il y a quelques aéroports américains qui ont des bonnes librairies, des bonnes sections d'affaires. Je voyage souvent à Dallas, et puis c'est une de mes librairies favorites. À JFK aussi, il y en a une, mais je te dirais que récemment, là, peut-être pas assez à mon goût. Donc, j'aime beaucoup aller chercher différents... Je lis beaucoup d'articles, je te dirais, en ligne. Je dirais qu'au niveau de mon Phil Lincoln, je suis abonné à beaucoup de personnes. Donc, dans différentes industries, pas nécessairement dans le textile, mais différentes choses. On a un groupement, moi je suis dans... En groupement des chefs d'entreprise, entre chefs. Donc, avec d'autres chefs d'entreprise, on s'envoie souvent beaucoup des articles. Je vais lire beaucoup sur différentes choses, autant sur des articles dans le New York Times, que dans le Journal des Affaires, que dans les publications de notre industrie. C'est sûr que là, je suis un petit peu plus allumé là-dessus. Mais bon, une des choses que j'aime en voyageant, c'est vraiment d'aller prendre des livres puis d'aller voir dans les librairies d'affaires là, qu'est-ce qui vient de sortir. Mais là, il y a des podcasts, c'est fantastique maintenant. Donc, je vais pouvoir écouter des podcasts comme le vôtre. Là.
Est-ce que tu en écoutes un peu, des podcasts?
Ben oui, mais je te dirais qu'en ce moment, les podcasts que j'écoute, c'est vraiment pour un petit peu décrocher. Donc, quand je fais de l'exercice ou je fais avant de me coucher ou des certaines choses, je vais écouter des podcasts, mais c'est plus par divertissement.
Mm.
Mais là, quand je vois qu'il y a des podcasts francophones là, qui parlent d'affaires, de croissance, là, c'est sûr que ça m'allume fortement. C'est sûr, là, je me suis abonné au vôtre, là, mais j'ai commencé à regarder d'autres aussi. Donc là, je trouve que l'outil est le fun aussi.
Et consommer du contenu à l'audio, c'est facile, simple. On dirait que ça colle dans ta tête un peu. Tu t'en rappelles plus facilement.
Oui, exactement. Fait que c'est ça, j'en ai écouté quelques-uns là, des vôtres dans mon dernier vol. Fait que c'est le fun pour moi. Là, c'est un médium qui est facile, qui est facile à écouter, puis tu peux écouter ça n'importe quand, l'arrêter, donc c'est assez simple pour moi, donc c'est à mettre dans ma liste Spotify. Là.
Merveilleux, puis dernière question que je te poserai, Maxime, est-ce que tu as des routines spécifiques avant, pendant et après le travail?
Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement routinier. Le matin, je te dirais que j'ai une façon de fonctionner avec mon équipe, ils me connaissent bien. Je reçois mes choses, je suis assez ordonné. Le matin, avant le travail, bon... Arrivé au travail, j'ai mes choses toujours un petit peu de la même façon. Certains meetings sont toujours organisés à peu près aux mêmes heures. Oui, je suis assez routinier dans ma façon de faire. Pas nécessairement les mêmes choses, mais je me garde des périodes et puis j'aime être organisé et être en contrôle des choses qui s'en viennent. Et puis je dirais que, bon, pour ce qui est dans la vie personnelle, je suis moins organisé, je dirais, mais... au travail, je suis quelqu'un qui est très, très attentionné sur les détails et puis qui aime avoir une journée quand même bien structurée. C'est important pour moi. Là, j'ai appris ça durant mes années que je devais être... Si on voulait que l'entreprise fonctionne bien, il fallait avoir une structure puis être discipliné. Donc,
bien sûr.
Avec une certaine rigueur.
Merveilleux. Ben Maxime, peut-être avant de te laisser filer, comment qu'on peut peut-être en apprendre plus sur vous? Est-ce que vous avez des postes ouverts en ce moment? Est-ce que peut-être il y a quelque chose que notre audience pourrait vous aider dans votre développement en ce moment?
Oui, ce serait bien. Mais écoutez, on a un merveilleux site web là, qui est tricotmaxime.com. On est sur la plupart des médias sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Donc, mais oui, en ce moment, on est bien sûr, comme la plupart des entreprises au Québec, en recherche de main-d'œuvre. Donc, de toutes sortes, moi, je voudrais surtout dire, Tricot Maxime, c'est une entreprise où vous pouvez grandir. Donc, moi, des gens qui ont de l'ambition, qui veulent grandir au niveau de l'entreprise, qui veulent vivre différentes aventures. Donc, moi, j'ai des gens qui ont travaillé dans plusieurs départements. J'aime que les gens soient versatiles. Donc, si vous aimez les challenges, si vous aimez découvrir de nouvelles choses au bureau, vous allez être vraiment ravis chez nous. C'est vraiment une entreprise qui valorise beaucoup l'indépendance et les défis personnels. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de challenges. Et j'aime donner des challenges aux gens, au personnel. Donc, peu importe la responsabilité, pour moi, c'est important. Puis, les gens sont appelés souvent à toucher à plusieurs responsabilités dans différents départements. Donc, j'aime bien avoir des gens qui sont intéressés, qui sont curieux, qui sont ambitieux. Donc, c'est des choses que j'aime bien chez les gens. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est de ce profil-là, bien, je pense qu'il y a des postes à pourvoir en masse dans à peu près tous les départements chez nous. Donc,
merveilleux. Bon, on mettra un lien dans les notes de l'épisode si les gens veulent en savoir plus. Maxime Thériault, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Félicitations d'avoir passé à travers la crise de la COVID qui vous a littéralement chamboulé, mais vous avez trouvé des manières de rester à flot, de continuer à avoir une croissance, l'ouverture d'une usine au Mexique, plus de 300 employés. C'est fantastique. Félicitations pour ce bel accomplissement. Et bien pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.